Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de Parcours est Lamia Safieddine. Bonjour Lamia Safieddine.
Bonjour Loïc.
Alors, qui êtes-vous, Lamia Safieddine?
Ben, je suis chorégraphe, je suis pédagogue, j'ai fait un doctorat en sciences de l'éducation, je suis libanaise, je suis interculturelle parce que la force des choses ont fait que j'ai vécu dans des pays très différents et longtemps, le Brésil, la Côte d'Ivoire, la Belgique, la France, ce qui fait que je me sens très interculturelle, parlant des langues différentes, et je crois que tous ces voyages m'ont fait et défait.
Où êtes-vous née et où avez-vous grandi?
Je suis née à Conakry, en Guinée. Et à peine je suis née que le pays a pris son indépendance, ce qui est une bonne chose pour la Guinée. Du coup, j'ai grandi au Liban. C'est-à-dire, moi, j'ai ouvert les yeux au Liban.
Dans quelle région du Liban?
Mes parents sont originaires du sud, de Tyr, la ville de Sour. Et très vite, on a grandi surtout à Beyrouth. Pour la qualité des études scolaires. Mon père a choisi quand même si c'est sa ville natale, de nous amener plutôt à Beyrouth pour avoir de bonnes écoles.
Dans quel quartier de Beyrouth avez-vous grandi?
Au départ à Badaro, et après on était vraiment devant la forêt de pins. C'était vraiment un grand immeuble devant, et ça s'appelait le rond-point Taïouné. Et malheureusement, on était à la ligne de démarcation. C'est la raison pour laquelle, au tout début de la guerre civile, on a dû quitter, parce que tout était derrière nous, Ayn Rmene, Sabra Chatila, c'était un peu plus derrière. Enfin, on était vraiment sur une ligne de démarcation. Je pense que comme l'immeuble était haut, la première bombe est rentrée dans notre immeuble. Et on a dû quitter en 75.
Et vous êtes allé dans quel quartier par la suite?
Ben, à l'époque, mon père pensait que le plus sécure, c'était le quartier de Léoubi. Il avait raison. Ils vont pas toucher à la région, le quartier américain, on va dire. L'université, Léoubi, c'est l'université américaine de Beyrouth. Et malheureusement, on est acquitté avec rien. On avait des valises vides. Il y avait à peine quelques petits trucs. Parce qu'on pensait justement quitter d'un quartier à l'autre. Et de là, on a dû partir, parce que ça s'aggravait. Et depuis, je ne suis plus rentrée au Liban.
Quel souvenir gardez-vous du Liban d'avant la guerre?
Enfin, j'ai plein d'images. J'ai quitté à 15 ans, donc j'étais assez âgée, on va dire. Donc j'ai plein de souvenirs, bien sûr. Mais le Liban d'avant la guerre, de mon point de vue, en tout cas d'enfant et d'adolescent, était très riche culturellement, surtout. J'avais la chance d'avoir des parents qui nous amenaient beaucoup au théâtre. Moi, j'ai grandi avec toutes les pièces de théâtre féroces de l'époque. Donc, j'ai eu la chance de voir vraiment de très belles chorégraphies et de très beaux spectacles. J'ai eu la chance de voir des beaux films. J'ai vu Docteur Jivago, je devais avoir 3-4 ans. Donc, tout ça pour dire que le Liban d'avant la guerre était très très riche culturellement, et bien sûr je me rendais pas compte de toute la complexité. N'empêche que j'ai grandi déjà 3 ans quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai ouvert mes oreilles avec la BBC en langue arabe. J'étais très jeune, donc 3 ans, qui toujours avait Rona à London, qui avait un ton très dur, qui racontait toujours, je me rendais compte déjà que c'était grave, la guerre, Israël, voilà, des problèmes. Et donc j'ai grandi dans ce Liban qui était assez beau, parce que bon, c'est mon pays, je pouvais pas juger par rapport à autre chose. La mer de Tyr, Beyrouth, la montagne, mes parents avaient cette possibilité de nous faire voyager au Liban. Mais en même temps, c'est toute cette période, donc, de 67, j'ai vécu quand même ce qui s'est passé en 67.
La guerre israélo-arabe.
Oui, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants, on avait la répercussion, c'est-à-dire qu'il y avait une gravité. J'ai jamais grandi dans un Liban paradisiaque parce que il y avait toujours des tensions que je recevais directement ou indirectement à travers la radio, les journaux, les parents qui s'inquiétaient, 73, l'école, on était conscients politiquement, moi en 70, je me rappelle qu'on parlait politique à 10 ans. Et que certains copains étaient déjà dans des partis politiques ou parlaient comme leurs parents. Et donc, on sentait venir des choses comme ça. Mais en même temps, il y avait, juste avant 75, comme une euphorie d'avant-guerre. Comme si ça allait, en tout cas au niveau de mes parents, leur situation financière était assez bonne. Mon père commençait à se développer au niveau de son travail. Et il y avait vraiment j'avais des frères et sœurs plus âgés, c'est des 68ards, j'ai vécu 68 à travers mes frères et sœurs, donc il y avait des tensions aussi à la maison de ces jeunes adolescents qui portaient des pottes d'éléphant, les cheveux longs. Mais il y avait quelque chose de très très riche, très vivant. J'avais hâte d'aller à l'université au Liban. Je sentais que être à l'université au Liban, c'était ça, la liberté.
Ça veut dire, Lamia Safieddine, que vous n'étiez pas totalement libre à l'école ?
Si, mais on était jeunes. Alors que je voyais que mes frères et sœurs, qui étaient plus âgés, qui étaient déjà à l'université, ils avaient une vie très, très riche. Culturellement, ils avaient plus d'indépendance par rapport aux parents. Bien sûr, la famille au Liban reste plus ou moins conservatrice, malgré l'ouverture d'esprit que mon père avait. Mais je sentais qu'il y avait comme si les ailes se déployaient une fois qu'on était à l'université.
Quel souvenir gardez-vous de l'école, Lamia Safieddine ?
En fait, j'ai eu deux écoles, les franciscaines au départ, et après j'étais dans une école excellente qui était laïque et mixte. Donc j'ai eu cette chance-là, parce que notre génération, par rapport à mes frères et sœurs, qui étaient plus dans des écoles non mixtes, en tout cas, la sagesse n'était pas mixte, les Nazareth n'était pas mixte. Donc moi, les franciscains, c'était pas mixte au départ, et c'était une école très riche, et c'est là que j'ai eu la chance de danser sur scène. À l'âge de 4 ans, j'ai dansé Fayrouz. Et cette école avait les moyens, et elle avait vraiment un théâtre, avec des fauteuils rouges, un rideau rouge, un vrai théâtre. Et à 4 ans, la maîtresse nous a choisi 8 filles, 8 jeunes filles, 4-5 ans, pour danser sur Fayrouz, Ya Hajj al-Sannin, un genre de dabke, qui était déjà, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. J'étais dans mon Liban contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée de, tiens, on va danser le dabke, le folklore, on va se mettre avec des serwals. Déjà, ma maîtresse de l'époque nous a mis avec des petites jupes plissées pour danser le dabke, et c'est là où j'ai connu mon premier émoi. On peut dire, le trac d'être dans les coulisses d'un théâtre et de voir la scène, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance dans cette école de découvrir la scène.
Vous avez le sentiment que votre destin de danseuse, de chorégraphe, est né à ce moment-là, Lamia Safieddine ?
Non, je ne peux pas dire ça, mais je sais que cette émotion est tellement grande que jusqu'à présent, quand je vais n'importe où, dans n'importe quel théâtre du monde, avant... Vous savez, on arrive avant, on fait des repérages, et dès que je mets mon pied sur le plateau, ce souvenir ressort. C'est une émotion très très forte, surtout pour un enfant de 4 ans.
Vous nous avez parlé deux fois de Fayrouz, qui ouais. est une icône, une star qui représente beaucoup pour les Libanais, mais aussi pour les Arabes, et je dirais même au-delà du monde arabe. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous à ce moment-là, Fayrouz ?
Énormément, parce que, pareil, je dis, il faut imaginer une enfant, parce que, et bien sûr, la radio n'est pas comme maintenant, la radio c'était le hasard, mais heureusement qu'on avait une très bonne qualité de radio publique au Liban, et ma mère écoutait beaucoup la radio tout en faisant la cuisine, et moi j'étais assez proche de tout cet univers, vous savez, la cuisine c'est vraiment le foyer, au vrai sens du mot, même si l'appartement était grand, mais on tourne autour de ce foyer. Et donc j'écoutais avec ma mère, directement ou indirectement, ou ça rentrait en moi, toute cette qualité musicale. Et bien sûr, il diffusait beaucoup Fairouz. Donc, j'aimais sans savoir peut-être que c'était Fairouz. Mais ce qui est arrivé, qui était pour moi un déclic, c'est que soudain, bien sûr, ils n'ont pas pris mon avis, je vois apparaître dans le couloir, il y avait un grand couloir à côté de la cuisine, un pick-up. On l'appelait pick-up, c'est-à-dire un tourne-disque. Et où il y avait juste un disque de 45 tours. Et c'était Fairouz, Al-Quds au fil bel, la chanson pour Jérusalem. Et Jérusalem dans le cœur, dans l'esprit. Et moi, je vois apparaître ça comme par magie, parce que, bien sûr, ils ont dû parler, on va acheter un pick-up. C'était tout nouveau, hein, c'est parmi les premières maisons qui ont eu ce... Et du coup, moi, ce disque de 45 tours, il n'y avait pas d'autre au tout début. J'ai dû l'écouter recto verso, mais des milliers de fois. Et c'est une chanson, je ne sais pas si vous connaissez Loïc.
Oui, je la connais. Ouais.
Elle est d'une force incroyable.
Et je pense que tous les auditeurs de Radio Orient connaissent bien cette chanson.
Oui, elle est tellement forte. La poésie est tellement forte. La chanson, la voix de Fairouz, les paroles sont tellement ancrées, engagées dans cette tragédie palestinienne qui nous concerne tous. Quand elle parle de l'enfant Christ et dans la grotte, et sa mère et Marie, et il pleure. Enfin, pour moi, en fait, c'est plus qu'une chanson. C'est un genre d'opéra. Parce qu'elle raconte toute la tragédie de façon, c'est écrit par un grand poète. C'est des sillons qui ont été creusés dans mon âme, dans mon corps, et qui m'a énormément sensibilisée sur le problème palestinien, très jeune, grâce à ce disque. Et cette voix de Fairouz, qui à part les chansons douces de l'époque, là, il y avait quelque chose d'encore plus géant pour moi. Et je n'ai pu chorégraphier que beaucoup plus tard, j'ai fait un spectacle qui s'appelle « La Palestine au cœur », justement, « Palestine fil bel ». Et j'ai pris juste le tout début. J'ai pas pu me permettre. En fait, moi, j'ai comme une... je trouve que c'est sacré. La voix de Fairouz est pour moi sacrée. Et on peut pas faire n'importe quoi, en tout cas. Et sur cette chanson particulièrement, j'ai fait un truc très, très sobre, où je rentre. J'ai juste une jarre sur la tête. Je suis habillée à l'ancienne, un peu avec un truc noir. Et j'ai une jarre sur la tête. Et pendant 2 minutes de cette chanson, et je trouvais que ça suffisait.
Vous avez vu Fairouz en vrai, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Si, beaucoup l'ont vu en vrai sur scène. Moi, j'ai eu la chance pareil. Vous savez, le Liban est petit. Je crois que c'est là son mystère, sa force, sa puissance. C'est que vraiment, c'est un tout petit pays. Par exemple, la fille de Fairouz, Layal, malheureusement, elle est décédée. Elle était ma copine en classe. Donc, on était assez garçons manqués, on jouait ensemble. Et donc, ça m'a énormément touchée quand elle est partie. Mais une fois, j'ai eu la chance, on était à la montagne, dans un hôtel, et elle était dans le même hôtel. Je crois qu'elle juste, elle buvait un café dans cet hôtel, je crois pas qu'elle descendait dans le même hôtel. Et bien sûr, on l'a vue, et moi j'ai dit, j'aimerais la saluer, et mes parents n'ont pas dit non, maintenant quand j'y pense. Et j'ai été la voir, j'étais vraiment très petite, je devais avoir 6-7 ans, et elle était assise, mais j'avais l'impression qu'elle était géante, assise et géante, elle était grande, géante. Et elle était tellement gentille avec moi, et voilà, c'était, bien sûr, ça imprime quelque chose de fort. Mais j'ai jamais eu l'impression que Fairouz était quelqu'un d'inaccessible. Parce qu'elle elle nous accompagne, ses chansons nous accompagnent dans toute notre vie. Du plus petit geste, du premier amour, de la première souffrance. Elle est là partout. Et donc, du coup, elle est notre voisine, on va dire. Et quand après, avec le temps, on apprend à quel point c'est une femme simple, qui n'a jamais pris la grosse tête, et que c'est une femme humble, Et elle a une voix angélique, mais elle est là, elle est bien ancrée. Elle n'a jamais quitté le Liban. Donc, c'est quelque chose de très important. Et je me suis permise, enfin, c'est pas que je me suis permise, j'ai eu la chance, pareil, c'était la maîtresse qui m'a demandé, avec 3-4 jeunes filles, c'était en 70, de danser sur scène. Ça, c'est dans une autre école, l'école laïque dont je vous ai parlé, Almanal, qui était une école d'un écrivain qui a eu l'idée de faire une école laïque au Liban, très ouverte d'esprit, où il n'y avait pas beaucoup d'élèves. C'était vraiment une école pilote. Et là, sur scène, la maîtresse a chorégraphié sur la chanson de Atinina Yawarani.
Voilà. Un chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre, exactement.
Donne-moi la flûte.
Et chante. Et là, voilà, j'ai la chair de poule. Quand on est aussi, c'est ça qu'il faut qu'on se rende compte. Quand je dis je danse et que je suis chorégraphe ou que je danse sur scène, il y a quelque chose de très très fort par rapport à l'écoute d'une chanson ou d'une musique. Quand on est sur scène avec de bonnes qualités de technique, de son, de lumière, mais surtout de son, on est dans l'antre de la musique. Moi, je dis que c'est comme si on était dans l'utérus de la musique. Et donc, danser Atinina Yaorani, à l'époque, avec un voile tout simple, elle a fait un costume tout simple blanc avec des papiers crépons. Parce qu'elle parle, la chanson parle de justement. Elle est épurée de simplicité, c'est de Gibran Khalil Gibran, de soufisme, avec un voile, et danser dessus, pareil, c'est au-delà de l'écouter quand on est chez soi, on est imprégné encore plus. Et justement, que le corps bouge en harmonie avec la chanson, on ne sort pas indemne. Donc, depuis, je crois que c'est ça qui m'a le plus donné envie de danser dans ma vie.
Férouz vous a donné envie de danser?
Bien sûr, énormément, énormément. Par ces deux expériences petites que j'ai eues, par le fait que j'ai vu ces spectacles sur scène, que j'ai vu ces films, il y avait de très beaux films que j'ai vus très jeune, où justement, c'est une autre Férouz dans les films, c'est la Férouz comédienne, c'est la Férouz, pareil, elle prend toujours la cause des plus démunis. Il y a quelque chose aussi de très noble dans la proposition des Rahbani et de Férouz. Il y avait un idéal d'un Liban plus humain, plus juste. Et elle jouait ce rôle-là et moi, ça m'a beaucoup influencée.
L'invité de Parcours est Lamia Safieddine. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours en compagnie de Lamia Safieddine. Vous nous avez parlé tout à l'heure de votre passion pour Férouz. On sait que vous êtes danseuse, chorégraphe. On va revenir encore dans le passé. À quel moment avez-vous quitté le Liban?
Ben oui, c'est ça. C'était surtout la guerre civile qui a commencé en 1975. Et comme j'avais un père qui était assez alerte au niveau des infos, il les écoutait, il avait un pressentiment que ça allait se dégrader. Il sentait venir les armes, il sentait venir du fascisme dans le pays. Et du coup, lui, il est parti juste avant que ça n'éclate. C'est ça qui est incroyable. Il est parti en Afrique. Et dès qu'on a eu cette bombe qui rentrait dans l'immeuble, donc au tout début de la guerre civile, et à peine on est sorti de notre quartier vers le quartier de Léoubi, comme ça s'est enflammé très très vite, comme il était à l'étranger déjà, il nous a poussé à partir. On ne voulait pas. Ma mère qui connaissait l'Afrique, parce que je suis née en Afrique, elle connaissait bien, elle n'avait pas du tout envie de revenir en Afrique. Elle avait, elle, son propre histoire avec l'Afrique, et c'était dur pour une femme de l'époque. Et nous, bien sûr, on n'avait pas envie de quitter le Liban, on était juste mon frère et moi. Mais il nous a fait une il nous a mis la pression et on est dû partir. Donc j'ai quitté vraiment tout début. J'ai vécu juste peut-être 2 nuits dans l'abri. Donc ce que j'ai vécu, moi, de la guerre civile, n'est rien par rapport à ce qu'ont vécu les Libanais. Mais la douleur de voir de loin son pays se détruire, et comme notre quartier était sur une ligne de démarcation, brûler, l'immeuble partir, la famille en danger, les amis en danger, c'est un autre type de souffrance que maintenant les gens commencent à comprendre plus ou moins. Mais à l'époque, c'est-à-dire la lucarne de la télé nous montre, c'est une loupe qui agrandit la tragédie. Et moi je l'ai vécu et c'était très 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 violent par rapport à mes 15 ans de l'époque. J'ai senti moi que, comme si j'adorais les fleurs de coquelicot, parce qu'à la montagne au printemps, on était vers Big Faya, Dar es Salaam, une région très jolie, et il y avait des coquelicots. Et moi j'ai senti vraiment, parce que je venais à peine d'avoir 15 ans, que c'est à peine je commençais à vivre, à sortir seule et tout, comme un coquelicot qu'on a arraché. Et un coquelicot, quand vous l'arrachez, il ne survit pas. Il est tellement beau, on ne doit pas le toucher. Une rose. Et du coup, voilà, tout s'étiole. Et c'était comme ça. C'est mon sentiment. Et voir le pays rentrer dans cette guerre féroce et les destructions, quand même, la guerre civile libanaise n'a pas de pareil, je pense, était très dur.
Et votre rêve d'université américaine ne s'est jamais réalisée.
Non, c'était pas spécialement université américaine. L'important, c'était l'université. Au contraire, l'université libanaise avait quelque chose de plus intéressant parce que ma sœur était au Beaux-Arts de Beyrouth. Et c'est là, le Beaux-Arts de Beyrouth était déjà avait un très bon niveau. Et l'esprit de ses étudiants était très, très, très ouvert. Et moi, j'ai vécu ce que les gens oublient maintenant, que juste avant la guerre civile, et c'est une des raisons dont on ne parle pas de la guerre civile, c'est que les gens étaient dans les rues, juste avant la guerre civile, les jeunes, pour demander changement de la constitution libanaise qui est confessionnelle, plus de justice, plus de droits scolaires, plus de droits pour la santé. Donc, ils étaient, c'est-à-dire mes frères et sœurs, donc, qui avaient 16, 17, 18, 19 ans, étaient dans ces mouvances-là. Et moi, ça, je trouvais, et ça, c'était vraiment l'université libanaise, enfin, toutes les universités, mais je n'avais pas spécialement l'université américaine. Mais après, j'ai vécu l'université, mais ailleurs, en Belgique. Ça n'a rien à voir.
Alors, vous êtes arrivée en Belgique. Vous vivez aujourd'hui en France. C'est la Belgique qui vous a accueilli. Dans quelle ville?
Au départ à Bruxelles, non mais après, au fait, on était en Côte d'Ivoire, j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac scientifique en Côte d'Ivoire et j'ai choisi la Belgique pour faire des études de dentaire, j'avais une première année de médecine. En fait, c'était un prétexte juste pour quitter la Côte d'Ivoire, c'était la seule matière qui n'existait pas en Côte d'Ivoire, c'était dentaire. Et je voulais quitter la Côte d'Ivoire, je me sentais étouffée en Côte d'Ivoire. Pas pour la Côte d'Ivoire est un très 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 beau pays qui m'a énormément enrichie. J'ai choisi, après c'est devenu un choix, j'ai choisi d'aller en Belgique. Avant, je suivais mes parents. Mais là, 17-18 ans, le bac en poche, justement, c'est la liberté. J'ai choisi d'aller en Belgique parce que mon frère était en Belgique déjà en tant qu'étudiant en médecine. Je trouvais que la Belgique, c'était plus doux comme vie universitaire que Paris, par exemple. Et c'est vrai, les Belges sont hyper gentils. Et voilà, j'ai fait mes études universitaires en Belgique, j'ai connu la liberté comme je le souhaitais en Belgique, être en Europe, femme libanaise en Europe, parce que c'est beau, un tout petit pays, le Liban et tout ça, mais ça veut dire que la société est toute petite, tout le monde se connaît, il n'y a pas d'anonymat, c'est-à-dire qu'on est quelque part prisonnier, on est dans un carcan social, c'est le prix qu'on paye.
On est observé, on est sous la loupe des autres.
On est sous la loupe des autres, de ce qu'on dit, tout ça. Je n'ai pas vécu beaucoup ça parce que j'ai quitté jeune. N'empêche que les femmes, tout le monde le sait, c'est la société, elle est quand même, tout le monde se connaît, voilà. Donc c'est une sorte de... L'enfer, c'est les autres, Sartre, c'est ça. C'est un autre type d'enfer. Et quand on est en Europe, moi, ce que j'ai découvert, c'est l'anonymat et c'est super bien. J'ai vécu ma vie, j'ai fait ce que j'avais envie, j'ai étudié, je me suis amusée, j'ai beaucoup dansé. J'étais à toutes les fêtes universitaires et j'ai choisi donc de faire des études en sciences de l'éducation parce que je sentais que le Liban, à l'époque, je pensais revenir, avait besoin de vraiment un travail pédagogique et de justice au niveau scolaire. Je pensais que je pouvais être utile au Liban en faisant les sciences de l'éducation.
Et vous avez travaillé en tant que pédagogue ?
Oui,
ça
oui bien sûr.
Ça signifie quoi, être pédagogue ? C'est pas tout à fait être enseignant, c'est pas pareil ?
Oui, en fait, on enseigne aux enseignants comment enseigner. On prépare les programmes scolaires. Vraiment, c'est, en plus en Belgique, c'est un niveau très fort, c'est les sciences de l'éducation. On apprend bien sûr des bases de psychologie, de pédagogie, mais c'est au-delà, il y a vraiment un travail très très scientifique pour améliorer l'enseignement. Et oui, j'ai travaillé au Brésil, parce qu'après j'ai choisi le Brésil pour faire mon doctorat là-bas. Et parce qu'ils étaient très innovants en matière d'enseignement. Et parce qu'on se rend compte qu'on peut être innovant. Ma maîtrise était là-dessus. J'ai travaillé sur une maîtrise sur Freinet, qui est un grand pédagogue français d'ailleurs. Et donc, il y a une école en Belgique qui innovait en réutilisant la pédagogie de Freinet. Et je me suis rendu compte que même si on veut innover en Europe, il y a tellement de murs. Les murs de l'architecture ancienne qui permet pas les ouvertures qu'on a envie de faire intrascolaires.
L'administration française.
Ou belge, je veux dire que l'Europe, c'est un vieux pays, un vieux continent qui a aussi une administration très lourde. Il y a des choses positives, mais aussi négatives au sens par rapport à l'innovation. Et comme ce qui m'intéressait, c'est l'innovation en matière d'enseignement, mon prof de l'époque et moi-même, parce que j'ai commencé à lire sur la pédagogie brésilienne, j'étais orientée pour aller au Brésil et voilà, et c'était encore un autre continent que je découvre.
Alors j'aurais envie de vous inviter à nous parler de vos aventures au Brésil, mais j'ai envie tout de même qu'on parle de la danse.
Oui.
Vous êtes aujourd'hui chorégraphe, danseuse, vous avez des élèves. À partir de quel moment vous êtes-vous professionnalisée ?
Quand on part professionnaliser, en Occident, faire de la danse, il faut vraiment se professionnaliser. D'ailleurs, apprendre à danser, il faut aller dans une école pour apprendre à danser. Moi, je fais de la danse arabe contemporaine. C'est-à-dire, on danse comme au Brésil, comme en Afrique, comme dans les pays où la culture du corps est encore vivante, où le corps est encore respecté. Et je le dis, même dans notre Orient, avec tout notre conservatisme, le corps, l'architecture d'intérieur, nos fauteuils respectent le corps. C'est-à-dire que quelque part, la danse est vivante. Et du coup, moi, j'ai toujours dansé. J'ai toujours, depuis que je suis petite, à part sur scène, mais on danse chez nous. Dans les fêtes, on danse. J'ai toujours dansé. Et en Belgique, la guerre du Liban est de plus en plus violente. Et je rencontre des étudiants plus âgés que moi. J'étais parmi les rares filles de l'époque. Et ils étaient engagés, ils faisaient des spectacles, chants. Ils reprenaient chansons de Marcel Khalife, des choses engagées comme ça pour le Liban. Et on me demandait à moi de les aider pour traduire sur scène. Et après, on recevait des on me demandait de traduire parce que comme j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais assez bilingue déjà et je maîtrisais mieux le français que les étudiants libanais de l'époque. Et c'est là que j'ai trouvé la limite de la traduction et du discours politique. Déjà, je sentais que le discours politique, quel que soit notre avis, ne passe pas. Et même, j'ai eu la chance d'être sur scène avec Mahmoud Darwish. Traduire, parce que Mahmoud Darwish refusait de parler en anglais, alors qu'il maîtrisait très bien l'anglais. Et avec Marcel Khalife aussi. Donc on les invitait, nous, en tant qu'étudiants, pour Ziad Rahbani. J'ai eu la chance à cette époque-là, en Belgique, qu'on les recevait. Et eux, refusant de parler une autre langue que la langue arabe, je me retrouvais sur scène avec eux à traduire. Et donc, du coup, j'étais dans les coulisses avec eux. Et ils sont devenus des amis. Enfin, je les connaissais super bien. J'étais très jeune et très enthousiaste, et ils aimaient mon enthousiasme. Mais moi, qu'est-ce que je me rendais compte sur scène? Que ça ne passait pas. Quel que soit ce que je traduis Mahmoud Darwish, ça n'a pas cette force quand Mahmoud Darwish. Déjà, en arabe, il lui-même déclame ses poèmes. Marcel Rey. C'est là où j'ai eu l'idée, à l'âge de 20 ans, et pourquoi pas danser? Parce qu'en Belgique, il y a trois langues en plus. Il faut traduire en anglais, en français, en flamand. Voilà. Et donc, du coup, j'ai proposé, et si on dansait? Si on faisait des... Je pensais même pas danse. Je pensais comme du théâtre sans parole. Sur ces musiques très fortes, d'expression. Et j'ai commencé par des petites scénettes. Ça a eu tellement de succès que j'ai commencé à développer de plus en plus. Donc, je peux dire, je me suis professionnalisée, je ne sais pas, c'est-à-dire, je ne vivais pas de ça, j'étais étudiante. Mais j'ai commencé à travailler de façon très professionnelle, et j'ai eu la chance que les ingénieurs de son du théâtre de l'émulation à l'époque, à Liège, croyaient dans notre travail. Et donc, mes idées de jeune metteur en scène, danseuse, chorégraphe, ce qu'on veut, mes idées étaient servies par un super théâtre, un ingénieur de son excellent, on travaillait la lumière. Et donc, effectivement, ça avait beaucoup de succès. On n'avait plus besoin de traduire. Et du coup, voilà, j'ai développé ce genre de théâtre dansant pendant 4-5 ans en Belgique. Et on a commencé à tourner. On nous invitait à Paris, on allait en Amsterdam. C'est là où j'ai senti que la danse, le corps, n'a pas besoin de traduction, est un langage universel. Et je me suis engagée dedans.
Alors, le propre de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et je peux dire à nos auditeurs que quand vous parlez, vous faites des mouvements très gracieux avec les bras. C'est le corps qui parle.
On est comme les Italiens. C'est peut-être déjà ça. On est méditerranéen, donc on parle avec les mains. Et moi, bien sûr, en plus, je danse. Donc, du coup, c'est vrai que c'est... Ça...
Vous parlez en dansant.
Je parle en dansant. Ben oui, justement, donc du coup, finalement, la danse me permet de ne pas parler. Au fait, je me sens comme un intermédiaire, parfois, entre la chanson de Fairouz, quand je danse Fairouz, par exemple, qui est en arabe, qui est sublime, pour un auditeur. Moi, je suis tout le temps en Europe, je suis tout le temps en Occident. Je me sentis comme une ambassadrice. J'utilise mon corps comme un médium pour pouvoir passer c'est ce que je vis à travers la chanson et la poésie. Et j'ai eu la sensation, le public m'a rendu ça, que ça permet de comprendre encore mieux. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de traduction quand on écoute l'opéra, c'est génial. Mais quand on voit l'opéra, ça permet aussi de comprendre encore mieux. Et c'est ça. Et quand il y a une chorégraphie, quand je danse, par exemple, Tariq al-Nahl, le chemin des abeilles de Fairouz, voilà, ça permet à un public occidental de sentir un peu plus peut-être ce que veut dire le sens de la chanson. Voilà, c'est ma façon de ne pas parler.
Tout à l'heure, vous nous avez dit, je suis chorégraphe et pédagogue, vous enseignez la danse également.
J'enseignais la danse aux gens que j'engageais dans mes pièces de théâtre et dansant en Belgique. C'était, j'engageais, j'enseignais, mais c'était pas de façon professionnelle. C'est en fonction des spectacles, des chorégraphies. Mais au Brésil, je sais plus comment ça s'est passé, on est venu me chercher pour enseigner la danse. Et c'est là où j'ai commencé à enseigner la danse de façon professionnelle dans des salles de danse. Et c'est là où j'ai découvert, ce qui est génial avec le Brésil, que les Brésiliennes n'ont pas besoin qu'on leur enseigne énormément. Elles dansent déjà. Elles dansent la samba. J'ai commencé avec des toutes petites filles. Et c'était une révélation pour moi, parce qu'elles sont toutes brésiliennes, mais elles peuvent être avec des typées, on va dire, japonaises ou africaines, mais elles sont toutes brésiliennes. Et donc, quand je leur ai fait danser sur juste mon corps Fairouz, mais ses rimes, c'est une ouverture d'un spectacle de Fairouz, le prélude. Et donc, du coup, j'ai pas eu à leur apprendre beaucoup. Elles ont une liberté du corps. C'est des jeunes filles. Déjà, les enfants ont toujours des facilités. Elles ont le bassin qui est là, libre. Elles ont vite appris. Et Elles ont adoré. Et leurs parents ont tellement adoré la chorégraphie qu'on a faite en fin d'année que du coup, je me suis retrouvée sur le plus important plateau télé du Brésil, d'une émission hyper importante pour les enfants, mais très importante, il y a des millions qui regardaient. Avec cette chorégraphie, c'était pas la mode du tout, la musique orientale ou la danse d'Orient et tout ça. Et moi, j'ai toujours dit que je fais de la danse arabe. J'ai jamais dit que je fais de la danse orientale. Parce que là-bas aussi, au Brésil, ils n'ont pas ces préjugés négatifs avec le monde arabe. Le mot arabe, ils n'ont pas le problème de l'Algérie. Donc, quand ils disent, ah, ils vous rencontrent, vous êtes libanaise, ah, vous êtes arabe, ils aiment. Donc, c'est ça qui est génial, le Brésil. On se réconcilie avec tout ce qu'on a. Oui, ils sont contents qu'on soit arabe, ils sont contents qu'on danse, ils sont contents. Il n'y a pas tout le temps à se défendre comme on pourrait l'être vis-à-vis d'un certain racisme qui pourrait apparaître en Occident. Le Brésil est tout à fait à l'aise avec ça. Il n'a pas eu un rapport de colonisation colonisée. Au contraire, ils sont ouverts. Et voilà. Et on me dit, ah, danse arabe. Ah, muito bon. C'est super bien. Et donc, du coup, j'ai gardé, je fais de la danse arabe contemporaine parce que je ne fais pas du traditionnel, je ne fais pas du folklore.
Dernière question, Lamia Safiedine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Que le Liban puisse retrouver un minimum de paix.
Merci, Lamia Safiedine, d'avoir été l'invité de Parcours.
C'était Parcours sur Radio Orient.